à ceux qui partent leur journée du bon pied.
Boulevard. 102.1.
Dans les prochains instants, on va être en mesure d'aller rejoindre Alex Boissonneau, nouveau député du Parti québécois dans la circonscription d'Arthabasca. Une victoire éclatante hier par 11 points de pourcentage sur Éric Duhaime, qui était son principal adversaire dans cette élection partielle qui était excessivement attendue. On la suivait depuis des mois déjà. Et là, finalement, c'est hier que se tenait le vote. Il y avait eu aussi un fort taux de vote par anticipation, ce qui nous a mené à un taux de participation au final à cette élection partielle-là, qui était rien de moins qu'historique, surtout en plein mois d'août comme ça. Et le résultat final, ben, c'est une victoire d'Alex Boissonneau, député, nouveau député maintenant du Parti québécois dans Arthabasca. Éric Duhaime qui a livré un discours de défaite où il semblait assez amer, où Éric Duhaime semblait évidemment déçu. Je pense qu'il ne s'attendait pas à une défaite, ou du moins une défaite aussi cuisante. Alex Boissonneau, nouveau député du Parti québécois dans la circonscription d'Arthabasca, est au bout du fil. Monsieur Boissonneau, bonjour.
Bonjour.
D'abord, félicitations pour votre victoire dans Arthabasca hier.
Ben, c'est apprécié. Merci beaucoup. C'est une belle victoire. On est très contents.
Ben justement, est-ce qu'à l'interne, vous aviez des raisons de croire qu'une victoire aussi éclatante se dessinait? Est-ce qu'on avait des sondages internes qui nous menaient vers une voie comme ça, ou si une victoire par 11 points de pourcentage était vraiment imprévisible pour vous aussi?
Ben écoutez, je pense qu'il y a un élément de surprise, là, je vous mentirai pas. Le dernier sondage qu'on avait fait, c'est celui qu'on avait publié, qui nous mettait vraiment au coude à coude, là, je pense que c'était 42-41% entre le Parti québécois puis Éric Duhaime. C'était une surprise aussi, je vous dirais, parce que les gens sont sortis voter en masse. Et ça vient brouiller les cartes en quelque part, parce que vous comprenez que dans une campagne électorale, on fait ce qu'on appelle du pointage, donc on va à la rencontre des électeurs, des électrices, et on sait un peu où se trouvent nos adversaires, où se trouvent nos sympathisants, comment voir notre message, qui vote pas, donc on a un peu une idée du terrain, mais quand les gens sortent comme ça voter en aussi grand nombre, ben là, il y a un élément de plus aléatoire là, qui embarque, parce que la réponse, c'est les électeurs, les électrices qui l'ont. Hein. C'est vraiment eux qui décident, puis ils décident dans la boîte, puis ils ont toutes sortes de façons aussi, toutes sortes de raisons de se prononcer. Donc, on perd un peu l'idée là, qu'on pourrait avoir de ce que du résultat. Donc, je dirais qu'il y a eu, ça a été une belle surprise pour nous. En même temps, je trouve que ça répond bien à cette campagne-là très énergique qu'on a faite sur le terrain, parce qu'on a travaillé très, très fort avec une grosse équipe. Écoutez, il y a plus de 600 bénévoles qui ont participé à l'effort du Parti québécois là au téléphone ou à sillonner la circonscription ici. Alors, évidemment, on est très, très satisfait du résultat.
Éric Duhaime se vante d'avoir mené une campagne positive. Êtes-vous d'accord avec ça? De tous les côtés, sentez-vous que ça a été une campagne électorale en vue de cette partielle-là qui a été positive?
Écoutez, pour ce qui est de la campagne de mon adversaire, je vais... que je remercie d'ailleurs, hein, puis je remercie les autres qui sont présentés, les autres candidats, candidates, parce que c'est important comme geste, c'est important de travailler comme ça en démocratie, puis d'aller à la rencontre des électeurs. Mais pour ce qui est du jeu de sa campagne, ça, je vais le laisser aux analystes puis aux électeurs électrices. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est très important pour moi puis pour le Parti québécois de mener une campagne positive puis de parler des enjeux qui sont importants pour les gens d'Arthabasca, l'érable. C'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire, des propositions qui s'adressent à l'intelligence des électeurs. Puis des choses qui les concernent vraiment concrètement là, pour améliorer leur vie. Donc moi, c'était très important de faire une campagne positive et je pense que les gens l'ont appris.
Monsieur Boissonneau, le chef du Parti québécois hier, Paul-Saint-Pierre Plamondon, a mentionné son ouverture face aux avis divergents qui ont été entendus lors de votre campagne. Pouvez-vous nous expliquer ça veut dire quoi concrètement cette ouverture aux avis divergents? Est-ce que les idées d'Éric Duhaime ou du Parti conservateur vont venir teinter le projet du Parti québécois?
Au Parti québécois, on s'est toujours fait un point d'honneur d'être à l'écoute de ce que les gens nous disent sur le terrain. Puis je disais, dans cette campagne électorale, on a modulé nos propositions beaucoup en fonction de ce qu'on entendait au porte-à-porte pour proposer des choses qui peuvent faire une différence dans le quotidien des gens. Puis en quelque part, c'est un peu une main contente aussi aux gens qui ont voté pour d'autres partis, parce que moi, c'est bien clair. Là, je vais être le député de tout le monde, peu importe la couleur politique ou la couleur partisane. Les gens nous ont exprimé des préoccupations qui portent partout au Québec. Quand on pense, par exemple, à l'inefficacité de certains pans du gouvernement, de certains programmes, quand on pense au fait qu'il y a trop de bureaucratie, trop de paperasse, quand on pense au fait que, moi j'ai entendu beaucoup en porte-à-porte des gens qui sont fâchés, qui disent « moi je paie des impôts, je paie des taxes, puis j'en ai pas pour mon argent. L'État ne respecte pas sa part du contrat. »
Mais ça, tout le monde est d'accord avec ça. Ça, tu sais, je pense qu'il y a personne qui dit « moi, je veux payer plus de taxes, puis je veux qu'il y ait plus de fonctionnaires, puis je veux payer plus cher, puis j'aime ça. » Ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Mm-hmm. Dans le concret, quand Paul Saint-Pierre Plamondon dit « on est prêt à écouter peut-être », j'imagine qu'il veut dire des idées qu'on n'avait pas auparavant, parce que là, ce que vous énumérez, c'est quelque chose de... c'est facile à dire, là.
Ben, écoutez, c'est une perspective, on part d'un point, d'un constat, de ce que les gens nous disent sur le terrain, par rapport à l'immigration, par exemple. Ça, c'est un autre exemple qui est très concret. On est le seul parti, nous, qui avons dit depuis plusieurs années, on doit réduire les seuils parce qu'on a dépassé notre capacité d'accueil. Pas que l'immigration, c'est mal, au contraire, c'est positif. On veut que ce soit une histoire de succès. C'est un apport important que l'apport de l'immigration. D'ailleurs, nous, on propose de favoriser ou prioriser les secteurs des PME, le secteur agricole, pour ce qui est des travailleurs étrangers. Donc, on a un plan pour ça, mais on était à l'écoute des gens qui nous ont dit sur le terrain, ici, dans Tabasco, les Rames, mais avant aussi, qui ont des préoccupations, qui sont inquiets de l'impact que ça peut avoir sur le logement, sur les services qui sont rendus à la population. Donc, nous, on a cette ouverture-là. Moi, c'est une ouverture que j'ai sentie quand je me suis présenté. Je suis arrivé, moi, à la table en disant qu'il y avait quelque chose qui m'importait beaucoup, c'est l'idée du contrat social. J'ai l'impression qu'il est brisé au Parti québécois. Si on entend, ben, pas au Parti québécois, mais je veux dire, dans l'État québécois, donc on a cette impression au Parti québécois qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on entend davantage. Il y a une ouverture à différentes propositions pour rassembler des gens, des fois, qui sont un peu plus à gauche, un peu plus à droite, pour ce que ça veut dire, hein, parce que gauche-droite, je pense qu'il y a une redéfinition en Occident de ça. Mais il y a une ouverture, je trouve, au Parti québécois qui est positive.
Justement, vous vous êtes défini durant la campagne comme étant de centre-droit. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous être de centre-droit?
Ben, écoutez, encore là, comme je vous dis, il y a une redéfinition, je pense, un peu partout en Occident du spectre politique. Je pense qu'il faut quand même garder ça en tête. Moi, je suis attaché à certains principes qui sont plus associés à la gauche. Par exemple, les soins de santé universels ou une certaine redistribution de la richesse. Mais je crois aussi en la responsabilité individuelle. Je crois aussi en la liberté individuelle. Je crois au fait que l'État doit être plus petit parce que là, en ce moment, il est trop gros, il est inefficace, il gère mal les données publiques. Je crois qu'avant l'investissement supplémentaire pour régler un problème, c'est pas toujours la solution. En fait, il faut optimiser l'utilisation des ressources. Je crois à la protection du français. Je crois à la protection de la culture québécoise, qui était très à gauche, peut-être, il y a 20 ans, mais qui aujourd'hui a été associée par certaines personnes. Tu sais, quand je parle de la redéfinition, il y a un peu de ça qui était associé à quelque chose de plus conservateur. Je crois à réduire les seuils d'immigration aussi, parce que je pense que, encore là, l'immigration, c'est positif, mais il faut que ça se fasse bien. Voyez-vous, c'est pas, il y a personne qui a le monopole de ce qui est la droite ou le centre droit. À un moment donné, il faut s'entendre sur un certain nombre de principes, mais ça, on pourra en parler longuement.
Le Parti québécois, ou du moins le chef Paul Saint-Pierre Plamondon, se dit prêt à accueillir un peu tout le monde, devenir le parti de tout le monde, des régions, de gauche, de droite. Ça vient pas un peu ouvrir la porte au retour des bonnes vieilles chicanes au Parti québécois si on se met à accueillir du monde d'un éventail qui est assez large? Est-ce que vous sentez que ça pourrait brasser à l'interne?
Ben, écoutez, c'est sûr qu'on n'est pas tous sur la même page, surtout dans un parti. Puis ça, je pense que toutes les paroles politiques le visent en quelque part. Mais je trouve qu'au Parti québécois, il y a le respect de cette idée que nous, on a l'intérêt du Québec qu'on place au centre de nos préoccupations avec ce projet qu'on porte, qui est le projet de souveraineté. Puis on essaie de trouver des perspectives qui sont porteuses. On essaie de trouver des solutions qui vont interpeller la majorité là-dedans, avec cet objectif-là en tête. Puis je vois l'équipe travailler, moi, le caucus du Parti québécois, par exemple, qui a fait un travail extraordinaire au cours des dernières années, de façon collégiale, en discutant avec l'appui du chef aussi, Paul Saint-Pierre Plamondon. J'ai l'impression qu'il y a un beau dialogue par rapport à ça, puis cette compréhension qu'il y a une ouverture nécessaire au Parti québécois, puis pour interpeller les Québécois sur ce grand projet qu'on porte. Donc non, moi, j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers des chicanes, mais vers une ouverture des perspectives, puis en quelque part, dans le respect aussi qu'à un moment donné, on doit prendre position puis on doit avancer. Mais de permettre comme ça un dialogue, je pense que c'est quelque chose de positif.
Est-ce que vous croyez que le Québec souverain sous un gouvernement péquiste devrait se préoccuper prioritairement de création de richesses?
Bien, ça doit certainement faire partie des priorités, oui. Créer la richesse, exploiter nos ressources. le faire aussi dans le respect des normes environnementales, l'acceptabilité sociale, dans l'intérêt des Québécois, si on le dit aussi, puis on le répète. Il faut qu'on convainque les gens aussi, là. Ça, je pense que c'est vraiment important que, oui, la souveraineté s'est attachée à l'idée qu'on veut préserver notre langue, notre culture. Mais en même temps, c'est un choix rationnel aussi. C'est un choix payant. On a un gouvernement en ce moment qui nous endette, qui est de trop, celui d'Ottawa, qui vaut pour 90 milliards de dollars. Quand on parle de rationalité, là, quand on parle de bien utiliser les ressources, je pense qu'il y a un enjeu, là. On a un gouvernement qui a ouvert les portes pour l'immigration qui a dépassé nos capacités d'accueil. Ça vient d'Ottawa. On pourrait mieux servir si on prenait les décisions chez nous. On a un gouvernement aussi qui prend la moitié des revenus essentiellement lorsqu'on parle des taxes qu'on paie, des impôts, mais qui assume pas les responsabilités fondamentales comme la santé et l'éducation. Souvent, vient recouper un travail qu'on fait déjà au Québec sur le terrain. Ouais. Juste en éliminant ces dédoublements-là, on pourrait faire de l'argent aussi, on pourrait optimiser l'utilisation des ressources. Donc, je pense que cet argument-là va devoir être porté aussi parce que c'est un argument qui est convaincant pour bien des gens.
Parlant de souveraineté du Québec, êtes-vous, Alex Boissonneau, en faveur d'un référendum dans un premier mandat, oui ou non?
Moi, je suis sur la même page que mon chef et mon parti là-dessus. On l'a toujours dit, on a toujours été très clair là-dessus. Il va y avoir une consultation populaire d'ici 2030, donc d'ici la fin d'un mandat du Parti québécois, si les gens, évidemment, nous font confiance en 2026. Donc, il y a, évidemment, on va parler de ce que ça veut dire, la souveraineté. On va avoir ça doit être bien clair, là. Il va y avoir un livre bleu qui sera présenté au cours des prochains mois pour voir de quelle façon on va négocier cette souveraineté-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Comment ça change les choses? Quel avantage on va avoir ici au Québec? Mais pour ce qui est de l'échéancier, ça a toujours été très clair pour le Parti québécois.
Hier, dans son allocution, Paul Saint-Pierre Plamondon, en plus de démontrer son ouverture face aux avis divergents là, entendus durant votre campagne, s'est aussi positionné comme le parti des régions. Il a nommé plusieurs régions du Québec parce que le milieu rural, on le sait, a des préoccupations différentes des centres urbains. Vous avez fait campagne aussi. Vous avez entendu les préoccupations du milieu rural, notamment là, l'interdiction de véhicules, de vente de véhicules à essence d'ici 2030. On sait que la ruralité est exposée à une réalité complètement différente. Avez-vous vraiment l'impression que le Parti québécois va faire un virage plus axé sur les priorités aussi des gens qui habitent en ruralité?
Moi, je parle du fait que le Parti québécois, c'est un parti décentralisateur. C'est un parti qui est à l'écoute des régions, qui est à l'écoute du terrain. Je pense que ça fait un peu partie de notre ADN. Quand on pense, par exemple, à l'interdiction de la vente des véhicules à essence neufs à partir de 2030, c'est une date qui ne tient plus au Parti québécois. Puis on l'a répété souvent parce que ça faisait partie du programme en 2022, programme qu'on a dû revoir en raison du contexte international, contexte de production, technologique, etc. Donc, à un moment donné, on est à l'écoute aussi des gens sur le terrain. On est à l'écoute des régions parce que c'est notre perspective. On a vraiment une perspective, nous, de partir de la base pour voir ce qui est important, que ce soit, puis je vous dirais qu'on pourrait en parler dans les secteurs précis aussi en éducation. On a parlé d'une commission parents 2.0 pour écouter les gens sur le terrain d'abord et avant tout. Même chose pour le secteur de la santé. Donc, on veut partir du bas, monter vers le haut, alors que avec la CAQ et le Parti libéral, c'est souvent le contraire qui se passe. On a l'impression qu'on avait une philosophie là de dire on va par des structures qui vont être uniformes, pouvoir optimiser l'utilisation des ressources. Donc, je pense que c'est une perspective que ces gouvernements-là défendaient. Nous, on part un peu on change un peu la perspective pour partir de la base. Puis ça vaut aussi pour les régions. Je pense que le Parti québécois a toujours été très près des régions. Puis on va continuer de cette façon-là.
C'est quoi les principaux dangers qui guettent le Parti québécois pour la première année? Là, on le voit, ça va bien dans les sondages à l'échelle provinciale. Victoire éclatante dans Tabasco qu'on n'attendait pas. C'est quoi les dangers? Si tu peux peut-être tomber un peu le pied dans l'arrogance ou la surconfiance?
Ben ça, c'est important, effectivement, de pas être présomptueux, de comprendre aussi que tout repose sur la confiance des électeurs et des électrices. Donc, évidemment, il va falloir être beaucoup à l'écoute dans la prochaine année. Donc, on est content. On s'en cachera pas. C'est une grande victoire là dans Tabasco l'érable. Tu sais, on a 46% des voix. C'est presque un électeur sur deux. On était à 10% en 2022. Donc, c'est positif. Cela étant dit, on a beaucoup de travail à faire d'ici 2026 pour convaincre l'ensemble des Québécois qu'on est la bonne équipe qui peut remplacer le gouvernement de la coalition Avenir Québec. Donc, faut pas être présomptueux. Faut respecter l'intelligence des gens dans nos propositions. Je pense comme on le fait dans Tabasco l'érable. Mais je pense qu'avec cette écoute-là, ce dialogue-là, il y a quelque chose de positif qui est en train de se dessiner pour le parti.
La prochaine campagne électorale risque fort bien d'être les élections générales à l'automne prochain. Le Parti québécois a de grandes ambitions au Québec. Monsieur Boissonneau, si vous êtes réélu à l'automne prochain comme député dans Arthabasca, est-ce que vous souhaiteriez avoir des débats à l'Assemblée nationale avec Éric Duhaime présent à l'Assemblée nationale?
Je ne vais pas cibler une personne en particulier ou un parti en particulier. Moi, je pense que les électeurs et leurs perspectives, leurs enjeux, leurs préoccupations doivent être représentés le plus fidèlement possible, le plus démocratiquement possible. Là, évidemment, on parle de l'enjeu de la distorsion démocratique qu'on vit au Québec. C'est un argument de mon adversaire qui a porté dans une partie de l'électorat, visiblement, à savoir comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui aient voté pour son parti puis qu'il n'y ait pas de place à l'Assemblée nationale. Nous, ce qu'on a toujours dit au Parti québécois, c'est que, d'abord, on a été victimes, nous aussi, de cette distorsion démocratique-là en 2022. On a été parmi les premiers à dire qu'effectivement, ça devrait être corrigé. Mais ce qu'on répète, c'est que dans Arthabasca-l'Érable, on n'a pas à supporter, on n'a pas à être l'endroit qui corrige cette distorsion-là tout seul. Là. Il faut que ce soit une discussion qu'on ait pour l'ensemble du Québec. Puis je pense qu'effectivement, il doit y avoir une réflexion sur le fait que les idées doivent être représentées dans la mesure du possible. Évidemment, il y en a des partis. Il y avait 10 candidats dans Arthabasca-l'Érable. Mais il y a des idées qui sont plus porteuses, qui reçoivent l'appui d'une grande partie de l'électorat. Il faut comprendre ça aussi, mais je pense que c'est une discussion qu'on va devoir avoir à l'échelle nationale.
Alex Boissonneau, nouveau député du Parti québécois dans Arthabasca. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Au revoir.
Bye. Merci. Discussion intéressante.
Très intéressante. À cette dernière question, j'aurais aimé ça l'entendre dire oui, j'aimerais ça débattre avec Éric Duhaime, ouais, parce que c'est un habile communicateur. Il y a des idées qui sortent des sentiers battus et oui, ça ferait du bien. J'aurais aimé ça qu'il y ait cette hauteur-là. Mes attentes envers le Parti québécois sont élevées. Alors, c'est sûr que je suis critique envers le Parti québécois depuis que Paul Saint-Pierre Plamondon a pris cette stature, cette posture lorsqu'il est devenu chef de ce parti-là, en disant « Nous, on va faire de la politique autrement. » Tous les commentaires aussi que Paul Saint-Pierre Plamondon a toujours eu à l'égard du Parti conservateur, à l'égard de l'importance d'avoir la voix conservatrice dans le dialogue politique, dans le dialogue public au Québec. Je comprends la fuite là, d'Alex Boissonneau vers cette idée que ben, on va laisser les électeurs choisir et décider, bien sûr, mais j'aurais aimé ça qu'il se positionne en disant « Oui, oui, ça ferait du bien à l'Assemblée nationale d'avoir aussi quelqu'un qui a des propos légitimes, différents, qui est un bon communicateur et qui est capable là, de nous faire sortir un peu de nos cassettes traditionnelles.
Oui, parce que dans sa réponse, il avait raison sur le fait que c'était pas aux électeurs d'Arthabasca de porter le poids de la distorsion, tout ça, absolument. Ben oui. Mais c'était pas ça la question.
Ouais.
C'était pas ça du tout la question. La réponse aurait dû être simple. Oui. Puis au pire, dit, c'est pas Éric Duhaime, quelqu'un du Parti conservateur devrait être représenté s'ils obtiennent un tel... Ça aurait été très louable de le faire et très facile aussi.
Ouais. Remontez votre jeu. Je vous le dis, là, au Parti québécois, remontez votre jeu à la hauteur qui a déjà été. Ça va être tout en votre honneur parce que là, l'autre chose qu'on n'a pas posée comme question, c'est à quel point, là, dans ce 46%-là, il y a un vote anti-Duhaime et un vote pro-PQ. Ça va mieux s'observer peut-être aux élections générales l'année prochaine, mais il faut... Faut garder ça en tête.
On va continuer d'en jaser après la pause. Il y a encore quelques petits trucs à dire, j'ai l'impression, sur cette élection partielle qui a été complétée hier dans Arthabasca avec une victoire éclatante d'Alex Boissonneau du Parti québécois. On en reparle dans quelques minutes.